Dans Genèse chapitre 22, ou Morija, cet épisode ô combien important de la vie d'Abraham, ayant retiré l'essentiel. Genèse chapitre 22, verset 1er. Nous commençons. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, « moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Sheba, car Abraham demeurait à Beer-Sheba. Amen. Quel épisode. Quel acte de la part d'Abraham. Dieu nous éprouve. Le texte commence, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu nous éprouve. Abraham, c'est notre père à tous. Abraham, le croyant. Ce qu'il a vécu est général pour tous les croyants. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu nous éprouve, il ne nous tente pas. Grande différence. Quand le diable nous tente, c'est dans le désir que nous chutions et que cela se passe mal pour nous. Quand Dieu nous éprouve, c'est avec bienveillance. C'est pour que notre foi s'en ressorte plus forte. Gloire à Dieu. Même si parfois cela peut nous sembler difficile ce que nous vivons, l'épreuve qui nous est proposée, ne doutons pas des bonnes intentions de notre Dieu. Il est normal que Dieu nous éprouve parce que notre foi doit être éprouvée. Parce que nous rencontrerons le Seigneur Jésus avec une foi qui aura pris de la valeur par l'épreuve du feu. Amen. Nous ne sommes que ses enfants, nous ne sommes que des créatures, Dieu est Dieu. Nous n'avons à éprouver personne, nous n'avons à vérifier personne, mais Dieu est Dieu. Et il est normal qu'il nous éprouve. Parfois, quand nous avons des difficultés à accepter cette épreuve, quelque part nous avons une difficulté à reconnaître la place de Dieu, son autorité. Dire qu'il est notre Dieu, c'est dire qu'il a tous les droits sur nous. Et qu'il peut nous faire passer par les chemins qu'il veut. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est aussi une question de confiance. Abraham lui a fait confiance, même dans un moment terrible de sa vie, où il lui a été demandé ce que Dieu seul peut demander. Car qui peut demander un enfant? Vous me direz, oh, ça n'arrive pas. Il n'y a pas longtemps, le missionnaire Bordeneuve qui est venu nous rendre visite a perdu, il y a quelques petites années, 3-4 ans peut-être, un de leurs enfants en terre de mission qui servait le Seigneur. Parfois, on ne comprend pas toujours pourquoi certaines personnes auxquelles nous sommes si attachés meurent. Mais Dieu sait tout. Et nous voulons le glorifier dans nos épreuves, les plus difficiles qui soient. Nous n'aurons pas toujours toutes les réponses, loin de là. Parce qu'il est Dieu, je l'ai cité il n'y a pas longtemps, je le lirai certainement encore plus tard. Dieu est grand et il n'a aucun compte à rendre de ses actes. Amen. Parce qu'il est Dieu. Dieu nous éprouve. Deuxièmement, le sacrifice de son fils. Pourquoi? Pourquoi demander, et c'est précisé, ton unique, celui que tu aimes? Pourquoi? Bien parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu est jaloux. Notre Dieu porte le nom de jaloux dans l'Ancien Testament. Il est jaloux, il veut et doit être à la première place dans notre vie. Amen. Jésus a même dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14 verset 26. C'est la même exigence, que pour Abraham. Vous pourriez peut-être vous désolidariser de ce texte et vous dire « ça, le Seigneur ne me le demandera jamais, c'était exceptionnel ». En réalité, c'est faux. Dieu nous demande la même chose, c'est de l'aimer parce qu'il est jaloux plus que notre fils, comme Abraham, notre père, notre mère, plus que quiconque. Les liens du sang doivent être subordonnés à la volonté de Dieu. Son fils, ses entrailles. Mais il l'a sacrifié. Ah, Dieu l'en a empêché, mais c'est comme s'il l'avait fait. Nos liens familiaux doivent être subordonnés à la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Nous devons faire attention, parfois nos enfants, nos parents ou autres, qui ne sont pas au Seigneur, pourraient nous éloigner du Seigneur, de l'Église. Mais nous avons des choix à faire. Nous devons faire passer le Seigneur avant le lien du sang. Parlons de l'obéissance, troisièmement, l'obéissance d'Abraham. Au verset premier, il dit « Me voici ». Quand Dieu l'appelle « Abraham », il répond « Me voici ». Trois fois dans ce chapitre de mémoire, en l'ayant lu tout à l'heure, je me suis dit que trois fois, Abraham dit « Me voici » dans ce passage. « Me voici ». Verset 3, il est dit qu'il se leva de bon matin. C'est une obéissance rapide. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Alors je ne sais pas s'il a dormi la nuit. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que très tôt le matin, il s'est mis en route pour faire ce que Dieu lui a demandé. Je ne sais pas vous, peut-être que vous auriez eu du mal à vous lever, à vous mettre en route, à aller chercher le couteau, à aller chercher le gamin, et d'aller. Mais Abraham dit à Dieu, me voici. Et Abraham, très tôt le matin, obéit. J'ai remarqué que plus nous attendons pour obéir à ce que Dieu nous demande, moins nous le faisons. Il y a des moments, quand Dieu nous dit quelque chose, il vaut mieux le faire tout de suite. Si le Seigneur met sur notre cœur, par exemple, de demander pardon à quelqu'un, je vous conseille de le faire tout de suite, hein, parce que si vous attendez, vous ne le ferez pas. Quand des fois Dieu nous parle, pourquoi pas, on se dit, oh ben, je vais attendre la prochaine réunion, ou alors je vais attendre tel rendez-vous. Mais c'est dangereux. Si Dieu vous parle même dans votre maison, ben, n'hésitez pas, faites-le tout de suite. Faites-le tout de suite. De bon matin, une obéissance. La foi est obéissante. Amen. La foi est obéissante. Abraham avait la foi, il est le type du croyant, et ce qui a caractérisé, entre autres, sa vie, c'est l'obéissance. Alors, j'ai une remarque à faire, c'est en contradiction avec tout ce que Dieu lui avait dit avant. Dieu lui avait dit, « T'auras un fils, même quand il n'y croyait pas. » Et qu'il disait, mais non, mais celui-là, il vit là. Celui-là, tu me l'as donné avec Agar, qu'Ismaël vive devant ta face. Non, non, c'est pas lui. Tu n'y crois plus. Tu n'y crois plus. Le père des croyants, le plus grand des croyants, a eu des limites. C'est beau cela. Dieu dépasse toujours notre foi. Parfois, on dit, il faut prier dans le détail, il faut faire mouvoir le bras de Dieu. Je ne crois pas à toutes ces choses-là personnellement. Moi, je pense qu'en fait, Dieu est toujours plus grand que nous. Et qu'il est toujours plus grand même que notre foi. Et qu'au final, il nous demande infiniment au-delà de ce que nous demandons et même pensons. Alléluia. La foi d'Abraham, elle est dépassée, il n'y croit plus. Mais c'est Dieu qui insiste, qui le sort une nuit, il lui montre les étoiles. Il dit, tu vois, toutes ces étoiles innombrables. Abraham le voit, il est aidé. Il est aidé par quelque chose de concret, de visible. Et il dit, ça, ces étoiles, ça sera ta postérité. Et là, il croit, et cela lui fut imputé à justice. Il a été aidé à croire quand il ne croyait plus. Et puis là, après toutes ces choses, c'est écrit, après ces choses, Dieu lui dit quelque chose qui est complètement contradictoire. Sacrifie ton fils. Mais il y a de quoi ne plus rien y comprendre. Mais quand j'y croyais plus, tu m'y as fait croire. Je l'ai vu, tu me l'as donné, ma femme riait. Elle était trop vieille, t'as fait un miracle. Ça fait maintenant, il avait entre 12 et 15 ans, il était préado, ado, Isaac. D'ailleurs, son nom, rire, c'est tout. À chaque fois qu'il appelait son fils, il devait se rappeler quand même. Hein, Seigneur permet parfois qu'on ait des choses dont on se rappelle pour nous rester dans l'humilité. Je me souviens de ce frère qui disait, je sais là, j'ai une grosse cicatrice là. Je sais pourquoi j'ai cette cicatrice. C'est pour que je n'oublie jamais la vie de folie que j'ai menée et la raison pour laquelle j'ai cette cicatrice. Dieu n'efface pas toujours tout parce qu'il nous garde. Il efface tous nos péchés. Mais il n'efface pas toujours tout de ce que nous avons fait. Hein, Abraham devait toujours appeler son fils rire. Isaac, il n'a pas appelé foi ou victoire, il a appelé rire. Comme ça, à chaque fois, il pouvait se rappeler que c'est la grâce de Dieu s'il a eu ce fils. Amen. Donc dans ce moment-là, Abraham avait vraiment de quoi rétorquer et de dire à Dieu, c'est pas possible. Tu me demandes le contraire de ce que tu m'as promis. Il ne rétorque pas. Et il ne comprend peut-être pas tout, mais il avance. Un petit conseil. Pour nous tous, si nous attendons de tout comprendre pour avancer, ça ne sera pas par la foi, ça sera par l'intelligence. Et je doute beaucoup que nous ayons assez d'intelligence pour y parvenir, à tout comprendre pour avancer. Notre appui n'est pas ce que nous comprenons. Notre appui, c'est le Seigneur. Même quand il nous dirige dans une voie qui nous semble contradictoire. Parlons maintenant d'Isaac et de sa préfiguration. Tout d'abord, je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand nous l'avons lu, il est chargé du bois de l'Holocauste. Ça vous fait penser à rien ? Eh oui, Jésus qui est chargé de sa croix avec après Simon de Cyrène. Chargé du bois de l'Holocauste, c'est la croix. Dès le début, on le voit. Isaac, c'est le fils unique. Je sais que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Jésus est le fils unique de Dieu. Il n'y a pas si longtemps que ça, que la discussion d'un musulman qui me disait, mais quand il est dit que Jésus est le fils de Dieu, c'est pour dire, comme les chrétiens ou les musulmans, qu'ils sont enfants de Dieu. Mais ça ne fait pas de Jésus un fils de Dieu particulier. Jésus est un fils de Dieu, comme tous les croyants sont des fils de Dieu. Alors je lui ai répondu, sauf que l'apôtre Jean emploie une expression très particulière au sujet de Jésus, qui revient plusieurs fois, le fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Non, nous ne sommes pas des fils comme Jésus, il est le fils unique. Et si nous aujourd'hui, nous sommes des fils et des filles de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Il est le premier-né. Alléluia. Il est le fils unique de Dieu. Comme dont Isaac en est la préfiguration. Isaac est docile, il se laisse faire. Jésus a donné sa vie à la croix. Je vous l'ai dit, il avait entre 12 et 16 ans ou 15 ans, on ne peut pas dire exactement, mais ce n'était pas un enfant, ce n'était plus un petit gamin. Il pouvait se débattre, il pouvait courir. Je ne sais pas si Abraham a plus de 100 ans, il aurait su le rattraper. Mais il se laisse lier. Il s'offre. Il se donne. L'obéissance du Fils au Père, l'obéissance de Jésus-Christ au Père. Alléluia. D'ailleurs, deux fois, il est dit qu'Abraham et Isaac ont marché ensemble vers Morija. La croix de Golgotha, c'était dans l'unité du Père et du Fils. Ils marchaient ensemble. À la croix, Dieu a donné son Fils et son Fils a donné sa vie. Ils étaient tous deux ensemble, comme Abraham et Isaac pour Moria. Et enfin, Isaac est le crucifié qui redescend ressuscité. Alors nous n'avons pas le temps parce que l'heure avance, mais si vous voulez, vous le vérifierez. C'est dans Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19, que l'auteur de cette épître, qui est-il ? Ah, on ne sait pas. Beaucoup disent des hypothèses, mais personne ne peut dire avec certitude qui a écrit l'épître aux Hébreux. Cet auteur de l'épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19, explique que le fait qu'Isaac soit revenu de cette mort certaine, de ce sacrifice sur le mont Moria, c'est comme une sorte de préfiguration. Le fils est revenu à la vie. Isaac, donc, c'est la préfiguration du fils unique, en accord avec le Père, qui donne sa vie à la croix, mais qui revient ressuscité, victorieux de la mort. Alléluia. Dieu soit béni. Tout dans l'Écriture était déjà annoncé. Amen. Rien de ce que nous croyons aujourd'hui est nouveau et imprévu ou improvisé. Tout ce que nous croyons aujourd'hui remonte au jour de l'éternité. Alléluia. Et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es certes pas la moindre de tous les villages, parce que de toi naîtra celui dont les jours remontent au temps de l'éternité. Alléluia. Enfin, on terminera sur cela, Yahvé Jiré. Yahvé Jiré. Alors, je savais de mémoire ce que cela voulait dire, mais j'ai quand même voulu vérifier, parce que parfois, quand on a des évidences, des certitudes, on peut rater certaines choses. Et là, effectivement, j'ai été heureux de découvrir qu'en fait, littéralement, Yahvé Jiré, ça veut dire l'éternel voit. Moi, je me rappelais que ça voulait dire l'éternel pourvoit. Et c'est vrai qu'on le peut le traduire aussi, l'éternel pourvoit. Mais littéralement, d'abord, c'est l'éternel voit. Et effectivement, quand on revient sur le mont Moria, qu'est-ce qui se passe ? Abraham lève la main et Dieu dit, Maintenant j'ai vu, je vois que tu crains Dieu. Il voit. Et c'est ensuite qu'il pourvoit par ce bélier qui est pris par les cornes dans ce buisson. L'Éternel voit, puis l'Éternel pourvoit. Yahvé Jireh. Amen. Je crois que à la croix, d'abord, l'Éternel voit et a vu son Fils donner sa vie. Et c'est parce que l'Éternel a vu ce que Jésus a fait que maintenant il pourvoit en son nom. Amen. L'Éternel voit, l'Éternel pourvoit. C'est un sacrifice substitutif puisque ce bélier, il écrit, sera un holocauste à la place d'Isaac. Le bélier à la place de son fils. Et puis c'est une prophétie. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la colline de Golgotha, c'est réalisé ce qui s'est passé ici. Moria, c'est là où Isaac a été sacrifié. C'est là où vraisemblablement, plus tard, dans l'ère de Jébus, David stoppera l'ange de l'Éternel par un sacrifice. Et c'est au même endroit aussi, ou très proche, que s'élèvera le temple de Salomon. C'est un lieu particulier. C'est une montagne où Dieu pourvoit. Mais ce n'est pas seulement passé. C'est écrit, à partir de ce jour-là, on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel est pourvu. Vous savez, ça ne s'est pas passé il y a 2000 ans et c'est fini. Je crois que nous pouvons dire la même chose à partir du moment où Abraham a fait cette expérience. Parce qu'Abraham est parti, son fils lui dit, mais l'Holocauste. Et Abraham lui répond, l'Éternel pourvoira. Il arrive et l'Éternel pourvoit. Et l'Éternel même donne son... Enfin, le nom de l'Éternel même, c'est celui qui pourvoit. Tout le chapitre tourne autour du Dieu qui voit et qui pourvoit. C'est pour cela qu'on lui en donne ce nom-là. Bien, à partir de ce moment fort, les gens disaient, à la montagne, il sera pourvu. Nous l'avons vu avec Abraham. Bien, nous pouvons aussi dire aujourd'hui, tous les jours, à la montagne de la croix, il sera toujours pourvu. Alléluia. Nous aurons toujours ce dont nous avons besoin. Dimanche matin, quand nous prenions la scène, c'est à partir de là que j'ai réfléchi sur ce message. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et je me disais, il y a un grand sacrifice pour tout le monde. Et chaque semaine, il est pourvu pour tous. Alléluia. En Jésus-Christ. Pour notre paix, pour le pardon de nos péchés, pour nos délivrances. Et je crois aussi, quelque part, que Dieu sera celui qui voit et qui pourvoit dans la mesure où nous aussi, comme Abraham, nous accepterons de perdre notre vie. Amen. Pourquoi Abraham a fait cette expérience? C'est parce qu'il a perdu son fils, celui qu'il aimait. Je crois que nous ne serons riches que lorsque nous perdrons. Et tant que nous ne voudrons pas perdre, nous ne connaîtrons pas Yahvé Jireh. Yahvé Jireh, c'est le Dieu qui bénit le sacrifice. Et toute vie chrétienne qui ne veut pas sacrifier ne pourra pas connaître les bénédictions de Dieu. Amen. Que le Seigneur, par son esprit, nous conduise dans l'esprit de la croix à ressembler à notre maître. Il est allé sur la croix pour que nous y montions avec lui. Abraham a sacrifié son fils pour que nous aussi nous obéissions et sacrifions ce que nous aurons à sacrifier dans notre vie. Et c'est dans la mesure où nous sacrifierons que Dieu pourvoira. Alors c'est un peu difficile pour nous parce qu'on pense plutôt que si on donne, on va forcément perdre. C'est l'inverse. Mais les règles du royaume de Dieu sont vraiment très différentes. En réalité, c'est dans la mesure où on abandonne que Dieu donne. Mais il faut d'abord abandonner. En conclusion, il lui dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. La conclusion de ce passage, c'est que Moria a été une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Nous savons qu'en Jésus-Christ, l'Église, grâce à la croix, réalise cette prédiction. Non, Dieu n'a pas choisi Abraham pour se limiter à Israël. il a choisi Abraham pour sauver le monde entier. Et que pour tout, et que pour que toutes les nations dans l'Église soient bénies en Jésus-Christ. Et même au-delà du temps présent, nous croyons que dans le monde à venir, toutes les nations seront bénies quand Jésus-Christ règnera sur ce monde renouvelé. À lui soit la gloire.